Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va vous parler de RISC-V, d'Apple qui fait de l'IA et des téléphones, ou plutôt des iPads pliants, et aussi de Windows 10, 11 et 12. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 536, je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les Patriotes qui vous permettent d'écouter cet épisode d'Inhasti, Sirbaf, Tyron, Durinomus, qui est peut-être Durin Anonymous, on ne sait pas, et les producteurs de cet épisode, Julien D et Wakatepe. Merci à vous tous d'être présents et de soutenir cette émission, patreon.com/rdvtech évidemment, pour le faire vous aussi si vous le souhaitez. Et bonjour et merci également à Christophe d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe, comment ça va? Christophe Kamika, bien sûr.
Salut, salut. Bah, écoutez, ça va très très bien, merci. Encore ravi d'être là. En plus, on a des sujets passionnants qui me passionnent en particulier. Donc, ça va être un bon épisode, ça, je le sens bien.
Ça va être un très bon épisode. Il y a des sujets graves qui arrivent peut-être plus tard, ou en tout cas, je suis même pas sûr. On va voir comment ça va, mais là, on va parler tech, et tech importante pour l'industrie, et des sujets plutôt enthousiasmants, oui, le RISC-V. Si vous ne savez pas ce que c'est que le RISC-V, à la fin de cet épisode, vous saurez tout. Avant ça, je voudrais remercier les gens qui sont venus à l'IRL. On a fait notre IRL il y a quelques jours à peine. J'en parlais dans l'émission depuis des semaines, des mois. Et c'était hyper, hyper sympa. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus. On a passé 2-3 heures ensemble, vraiment hyper cool. Moi, je me suis super bien amusé. On a eu des conversations incroyables, de rigolotes. Et à la fin, on est parti sur des débats. On a refait le monde. Il n'y avait plus que quelques personnes qui restaient. Donc, merci, merci beaucoup à tous. J'espère pouvoir refaire une IRL l'année prochaine. Si vous n'y étiez pas cette fois-ci, vous aurez une occasion l'année prochaine. Si tout se passe bien, hein, maintenant, ça devrait revenir tous les ans, j'espère. Donc, mais merci vraiment à toutes celles et à tous ceux qui sont venus. C'était hyper cool de se rencontrer en vrai un petit peu. Ça change et ça fait du bien. Mais donc, on se lance sans jingle, parce que je suis toujours dans le studio mini, qui m'a fait des misères. Hein. Avant de se lancer, on a eu quand même quoi, une demi-heure de préparation. C'était pénible.
Alors, faire du setup.
Les Mac, ils sont cool, mais c'est pas idéal quand j'ai un setup complexe pour OBS, pour le streaming et pour la vidéo et pour l'audio et pour tout capturer en même temps. C'est pas franchement idéal sur le Mac. Donc, je me demande s'il va pas falloir que j'achète un PC pour le mini studio, pour le studio mini, pour le studio Azeroth, tu vois. Peut-être qu'un jour, il faudra faire ça.
Investissement.
Bon. Qui vaut le coup, c'est pour le boulot, tu vois.
C'est exactement
ça. On va parler aujourd'hui, pour notre premier sujet, on va parler de RISC-V. Et pour comprendre le RISC-V, il faut qu'on parle un petit peu de processeur. Alors, ça va être simple, hein, ne vous inquiétez pas, mais il faut qu'on parle d'architecture. La news, c'est que Qualcomm est en train de développer un processeur, un vrai processeur, sous architecture RISC-V. Et c'est vraiment une évolution majeure dans le monde des processeurs. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière. En fait, il existe dans tous les appareils que vous utilisez deux types d'architecture de processeur. Donc, on fait un petit... vous savez, on va faire cinématique. Qualcomm développe un Snapdragon sous architecture RISC-V. Chut, freeze frame. Oui, c'est moi, le processeur. Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière. Donc, on revient à la situation telle qu'elle était il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, et même telle qu'elle est encore un petit peu aujourd'hui. Il y a deux types d'architecture de processeur. C'est quoi, pardon ?
C'est très très vieux, c'est même plus que ça. Hein.
Bien sûr, mais je veux dire, la situation telle qu'elle est ces dernières années, elle est, c'est ça que je vais présenter, parce que si on revient aux origines, il va falloir passer par le risque, le CISC, le début des... Enfin, les PowerPC qui étaient en risque, mais puis ils sont passés... Bref, telle qu'elle est jusqu'à maintenant, on va dire, ces dernières années, on a deux types d'architecture de processeurs. Le CISC, qui sont des processeurs qui fonctionnent avec un jeu d'architecture complexe, beaucoup d'instructions différentes, et c'est l'architecture des processeurs classiques qu'on a dans nos PC et nos Mac jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'architecture Intel, AMD, x86, tout ça. Il y a un autre type d'architecture qui s'appelle RISC, et le R veut dire Reduced. Reduced pour réduit. Donc il y a un jeu d'instructions plus réduit. Et c'est sur cette architecture que sont basés les processeurs ARM qui équipent tous vos appareils mobiles. Traditionnellement, le CISC, c'est plus performant quand on met beaucoup d'énergie dedans, beaucoup d'électricité. Donc, ça consomme plus, mais par contre, la puissance est plus élevée. Et donc, on les utilise plutôt sur les appareils qui n'ont pas besoin de batterie, les PC de bureau, les PC portables qui ont des grosses batteries, et même les serveurs, généralement. Mais le RISC est... Traditionnellement également, le risque, c'est plutôt des performances absolues plus faibles, mais par contre moins gourmands en énergie. Donc, les appareils mobiles, tout ce qui est sur batterie, c'est plutôt des processeurs d'architecture risque. Depuis quelques années, on se rend compte que le risque est de plus en plus utilisé dans des configurations qui ne sont pas traditionnellement les siennes. Sur les serveurs, on en met des tonnes et des tonnes, et ben c'est quand même assez efficace, même quand on a une concurrence avec des architectures plus traditionnelles. Et il y a 2 ans, Apple a vraiment mis les pieds dans le plat. On disait depuis des années que ces processeurs mobiles, les fameux A12, A13, A14, etc., ils étaient vraiment d'une puissance surprenante, même comparé à des processeurs qui étaient dans des ordinateurs de bureau. Et il y a quelques années, Apple sort ses processeurs M1, depuis il y a eu les M2, il y aura bientôt les M3, qui sont dédiés à des machines, des ordinateurs classiques, dont des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, qui n'ont pas de problème d'électricité de la même manière que, et d'énergie de la même manière que les téléphones ou les tablettes. Et ça a vraiment énormément changé la manière dont on envisage toutes ces architectures, parce qu'on s'est dit, ah bah oui, le RISC, donc les processeurs type ARM, eh ben ils peuvent être performants tout court. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les processeurs sous architecture RISC, c'est vraiment ARM, ARM, qui contrôle tout le marché. Et ARM, c'est quoi ? C'est une société qui fait des designs de processeurs et qui vend ces designs sous licence. Donc, pour faire un processeur de mobile, quel qu'il soit, il faut payer une licence à ARM. Et les licences, ça coûte cher. Sauf que là arrive le héros de notre histoire qui était en freeze frame tout à l'heure. On revient à notre temps présent. Enfin, pas tout à fait. On revient à 2010 et les débuts de l'architecture RISC-V. À la base, c'est une implémentation qui se veut moderne de l'architecture RISC, qui s'encombre pas de l'héritage des architectures d'Intel ou même d'ARM, qui ont des décennies d'histoire et de compatibilité nécessaire, etc. C'est un étudiant qui s'appelle alors Kriste Azanovich, j'espère que je prononce bien, qu'il a créé en 2010 à l'université de Berkeley. Et qui est très vite rejoint par l'inventeur, entre guillemets, du RISC, qui s'appelle David Peterson. Et selon David Peterson, c'était la 5e implémentation du RISC qu'il créait. Et donc, ils ont appelé ça RISC-V. Ça a gagné en popularité depuis 2010, petit à petit. Et aujourd'hui, il y a une fondation qui gère le projet, qui inclut certains des plus gros acteurs de l'industrie, hein, ceux auxquels vous pourriez penser. Il n'y a pas Apple, il y en a un ou deux qui manquent, mais en gros, il y a presque tout le monde. Mais le plus important de cette architecture, c'est que contrairement aux architectures de ARM pour lesquelles il faut payer une licence, eh ben, RISC-V, c'est 100% open source. Qu'est-ce que ça veut dire 100% open source? Ça veut dire que n'importe quelle société peut prendre les designs, les modifier, les changer, y ajouter des choses, mais n'a pas besoin de recontribuer ses modifications au projet et peut utiliser tout ça sans payer de licence à qui que ce soit. C'est vraiment de l'open source, du vrai open source, 100% ouvert. Vous en faites ce que vous voulez et même si vous le modifiez, contrairement à ce qu'on entend par open source traditionnellement, une société qui va modifier un projet devrait recontribuer ses modifications au projet. Là, pour motiver les sociétés à utiliser cette architecture plus moderne et donc redynamiser, améliorer les performances et le marché, ben ils ont dit on fait open source tout court. Vous faites ce que vous voulez. Et jusqu'à maintenant, les processeurs sous architecture RISC-V, c'était des tout petites puces intégrées qui faisaient une tâche très limitée. On n'avait pas eu de vrais processeurs à grande échelle. Et donc, l'annonce de Qualcomm, on revient à aujourd'hui, l'annonce de Qualcomm qui vont faire un vrai processeur, alors un processeur de montre. C'est pas un processeur d'ordinateur ou de portable ou de téléphone même, c'est juste un processeur de montre. Mais il n'empêche, c'est une étape qui pourrait être décisive dans le début d'une transition, non seulement des processeurs ARM vers RISC-V, mais peut-être même, comme ces processeurs sont efficaces, on l'a vu, sur PC, dans les serveurs et dans toutes les configurations, bah peut-être que à l'avenir, les processeurs du monde entier seront des processeurs RISC-V. En tout cas, cette annonce de Qualcomm pour un processeur de montre sous RISC-V dans un partenariat avec Google pourrait être le début, l'initiation de cette transition qui pourrait se généraliser. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur RISC-V. Alors, je dis tout ce qu'il faut savoir, je suis sûr que Christophe a d'autres choses à dire également. J'en fais beaucoup, là, ou c'est vraiment quelque chose qui pourrait devenir le standard pour l'intégralité de l'industrie à terme?
Alors, déjà, c'est très bien expliqué. Et, alors, il y a une porte ouverte, c'est-à-dire que il y a l'instruction set, donc ça, c'est effectivement ce que tu as expliqué, et après, il y a l'implémentation qui va autour. Donc, l'instruction set, c'est globalement le dictionnaire de mots que ton processeur, il comprend. Il sait parler tant de mots, et c'est avec ça qu'il va pouvoir travailler. Ça fait pas tout, c'est-à-dire qu'après il va falloir que tu... Bon, il y a la partie physique, hein, faut que tu fondes du silicone, faut que tu fasses des instructions, mais au-delà de ça, t'as l'architecture qui va autour, notamment la partie mémoire et la partie cache et la partie prédiction des démos qui peuvent arriver par la suite. C'est là où Apple est très 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 fort, c'est-à-dire que quand ils ont sorti le M1, là où ils ont misé beaucoup, parce qu'ils ont vu une porte ouverte, c'est que sur l'architecture RISC, comme t'as moins d'instructions, et qu'elles sont toutes, on va dire, c'est des mots de longueur égale. Ils ont toutes le même nombre de lettres dans les mots, dans le dictionnaire. Du coup, tu peux facilement calculer en place mémoire où tu peux ranger tous ces mots-là. Et ce que fait Apple de très très fort là-dessus, c'est qu'il travaille énormément à prédire les mots qui vont arriver derrière. C'est pour ça qu'ils sont très très forts en termes de puissance de calcul. C'est qu'au niveau de la mémoire, ils peuvent regarder les instructions d'avant. C'est du predictive branching, donc en fait, ils regardent les prochaines instructions qui peuvent arriver, ils commencent à exécuter ces calculs, et en fonction de ce que tu es en train de faire, derrière, il ne prend que le résultat qu'il a déjà calculé. Le schématisme, mais globalement, c'est ça. Et ça, en fait, c'est pas juste l'instruction, c'est pas juste l'architecture qui fait ça. C'est que c'est pas le jeu d'instruction qui fait que ça. C'est l'architecture qui va autour du processeur qui va chercher ces performances-là. Donc, c'est pas parce que les M1 sont sur RISC et qui sont performants que tous les processeurs RISC sont aussi performants. Donc, ça veut dire que Qualcomm, ARM surtout, c'est là où ils sont bons. Ils sont bons, c'est qu'ils ont aussi un savoir-faire sur ce jeu d'instruction. Maintenant, on va le mettre en place dans un processeur plus global qui fait d'autres trucs, qui a aussi du GPU, qui a plein d'autres choses autour. Et c'est là aussi qu'il y a aussi la performance. Donc, RISC-V est encore très jeune là-dessus. Par contre, effectivement, il y a une porte ouverte parce que le modèle de licensing s'y prête très très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'architecture RISC, notamment avec le mouvement qui se fait côté serveur, parce que ça devient très performant, et surtout niveau énergie, parce qu'en fait, même tu vois, si tu n'as pas de problème d'énergie, c'est un vrai problème pour les data centers aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que les data centers et les providers cloud soient rentables, ils ont besoin de regarder énormément la consommation d'énergie, à la fois en termes d'électricité qui rentre, mais aussi en termes de refroidissement. Ça leur coûte aussi très cher. Donc, c'est des choses qui regardent beaucoup. Et pas que la puissance brute aujourd'hui, pas à tout prix. Tu vois, l'énergie aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui rentre en ligne de compte. Donc, il y a une vraie porte ouverte pour ça. Pour autant, RISC-V aujourd'hui, en termes de performance brute, même si c'est du risque, ils ne sont pas encore au niveau des autres. Mais je pense qu'ils vont y arriver très rapidement, surtout dans un modèle open source. S'ils arrivent à fédérer tout le monde, s'ils arrivent à faire quelque chose où tu peux contribuer à la plateforme et arriver à avoir une architecture assez moderne et performante, au moins comme de l'ARM et idéalement comme du M1, puisque pourquoi pas, on peut le faire aussi. Dans ce cas-là, ils peuvent péter des trucs, quoi. Ils peuvent péter des marchés et puis ils vont ouvrir des portes je pense à la Chine notamment, parce que RISC-V, ça a commencé à décoller, à frémir avec des enjeux au niveau de la Chine pour des mêmes problèmes de licence de droit, de pas pouvoir licencier les architectures ARM auprès de la Chine. C'est là où on a commencé vraiment à voir des gens s'intéresser plus profondément à RISC-V, parce que tu as des enjeux business derrière, forcément. Il n'y a pas que l'open source, mais ça y contribue, ça ouvre pas mal de portes. Donc moi, je trouve ça très, très intéressant.
Du point de vue du développement de la technologie, est-ce que cet open source un petit peu radical va y contribuer ? Parce que si tout le monde peut prendre les choses, mais ne pas contribuer au projet
en suite... C'est le vrai risque, c'est que ça part dans tous les sens.
Généralement, ça ne marche pas comme ça, on est d'accord, ce genre de projet.
Non, il faut... en fait, le plus gros parallèle que je peux faire avec, en termes d'open source, ça va être avec Linux, avec le noyau Linux, et tu as quand même une direction assez forte. Du coup, c'est que globalement, tout le monde peut prendre Linux, recompiler le noyau, enfin, se faire sa propre version et l'embarquer et faire à peu près ce qu'il veut. Par contre, tu peux aussi contribuer, tu dois partager le fait que tu as utilisé, etc. Mais tu peux globalement faire à peu près ce que tu veux, tant que tu le dis. Et par contre, si tu veux faire avancer le projet, là, tu peux contribuer, mais là, tu as une vraie t'as une vraie direction du projet, une vraie vision qui se fait derrière. C'est-à-dire que tu ne vas pas accepter tout n'importe quoi en termes de contribution, tu as une politique de contribution qui est faite, des choses qui sont obsolètes, tu as une vision, tu as une roadmap, tu as plein de trucs. Là, sur RISC-V, j'ai l'impression que c'est encore un peu jeune pour avoir ça. Mais il faudrait qu'ils arrivent dans cette dynamique-là pour arriver à fédérer et à faire grandir le truc et à bénéficier du monde de l'open source. Ouais.
C'est marrant de voir que le projet est jeune, il date de 2010, son établissement, enfin le début du projet à Berkeley, et pourtant aujourd'hui on commence à peine à avoir une possibilité de le voir s'établir plus largement. Et 2010, c'est une architecture jeune qui ne souffre pas de l'héritage et des lourdeurs des anciens projets. C'est marrant que ça soit 2010.
Mais petite anecdote rigolote sur les ARM, en fait. Il y a pas mal de legacy, tu peux dire, d'héritage, parce qu'ils ont fait pas mal de versions, et t'as des jeux d'instructions, j'ai tombé dessus dedans, de compatibilité avec des systèmes de fonctionnement Intel. Donc en fait, ils ont rajouté dans les instructions ARM des choses pour que des développeurs puissent utiliser des choses qu'ils faisaient sur la plateforme Intel, si tu veux. Alors c'était un peu tordu le truc, mais ça marchait à peu près comme ça. Ou même des instructions qui étaient tellement spécifique à un langage de programmation bien particulier. Il y a des trucs comme ça que tu vas retrouver dans l'architecture ARM. Fondamentalement, c'est pour moi, tu vois, philosophiquement, c'est à l'opposé de ce que devrait être une architecture RISC. Si tu avais des instructions très spécifiques dédiées pour un cas d'usage bien particulier, t'es plus dans un modèle très réduit et très optimisé, juste et généraliste.
Et bien justement, en parlant d'utilisation pour des utilisations de PC telles qu'ils existent aujourd'hui, on a des sources qui disent que Nvidia et AMD sont en train de développer des puces ARM, donc RISC, pour PC, spécifiquement pour PC, pour les PC Windows. Ce qui est intéressant parce qu'elle devrait arriver d'ici 2025, mais c'est intéressant parce que ça chasse un petit peu les processeurs M1, M2 d'Apple, et puis ça confirme que, alors, ils pourront peut-être pas faire absolument tout ce que peuvent faire les processeurs Intel, donc pour les questions de compatibilité, il y a toujours des problèmes sous Windows qui se posent quand on essaye de faire des changements radicaux. Mais si tout le monde se met à faire des processeurs basés sur ARM pour PC, là, je pense que la prédominance, alors peut-être pas de RISC-V, mais au moins la prédominance de RISC, de l'architecture RISC, risque de se confirmer. On va voir ce que fera Intel dans cette situation, parce que clairement, l'architecture CISC semble être un petit peu en perte de vitesse, on va dire.
C'est le problème de te tenir un gros boulet comme ça où tu as rajouté beaucoup trop de choses dedans. Au bout d'un moment, comment tu arrives à le faire évoluer? Donc, ouais, pour Cisco, c'est compliqué. Pour Nvidia sur ARM, c'est pas leur première. Hein. Ça fait un petit bout de temps qu'ils font déjà du ARM. On pense au Tegra notamment. Ils ont fait pas mal de chips là-dessus. Sur Windows, par contre, c'est une vraie nouveauté. Mais la difficulté, c'est
C'est
pas de
ça.
faire des processeurs mobiles pour Nvidia. Je pense que c'est à embarquer l'écosystème Microsoft dedans. Mais Microsoft, pareil, c'est pas leur premier coup d'essai, mais ils n'arrivent pas à embarquer tout le monde dedans. Ils n'ont pas la force et la maîtrise sur l'écosystème comme peut l'avoir Apple. Mais Apple, demain, ils disent, bon, on change d'architecture. Ils l'ont fait plusieurs fois. Hein. Ils sont passés du PowerPC à l'Intel. Ils sont revenus à l'ARM derrière. Enfin, ils ont changé plein de choses. Et à chaque fois, la bascule se fait relativement bien, facilement quand même. Ils embarquent tout le monde avec des couches d'adaptation. On pense à Rosetta pour faire la traduction instantanée, une virtualisation, mais ça marche quand même très, très, très bien. Microsoft avec Windows, ça n'a jamais bien marché. Pour deux raisons. Techniquement, déjà, parce que la partie virtualisation n'était pas aussi performante. Ils n'avaient pas des processeurs ARM aussi performants pour le faire. C'était Windows RT, ils avaient fait. Tu pouvais faire de l'émulation x86 à un moment donné dessus. Donc, tu pouvais faire tourner tes applications traditionnelles de processeurs Intel sur des processeurs ARM, mais ça ne marchait pas bien du tout en termes de perf. Et puis, l'autre truc, c'est qu'ils ont du mal à embarquer l'écosystème, c'est-à-dire les développeurs, les utilisateurs, enfin tout le monde. Par contre, si demain, on se rend compte qu'au niveau du marché ARM, et les processeurs d'architecture RISC peuvent avoir une vraie valeur ajoutée en termes de performance et d'autonomie, ce qu'on voit sur les M1, et qu'ils arrivent à sortir un hardware qui va différencier tout ça, c'est peut-être un levier pour embarquer tout le monde dedans, en se disant, bah, on a de l'intérêt à
commencer,
acheter.
tu
Ouais,
vois.
c'est ça, c'est ça. Le cercle, t'as un frémissement, les gens vont commencer à acheter ce type de machine, et du coup, ça va tirer une traction, du coup, les gens vont s'intéresser pour pouvoir cibler ce marché-là, du coup, développer des applications pour, et c'est peut-être là qu'ils vont trouver la boucle. Mais c'est plus compliqué que dire, comme à Apple, demain, je vous saurai à main, et puis basta, si vous voulez des applications, recompilez-les en ARM, quoi.
La grosse différence, c'est qu'il y a tellement d'héritages de différentes applications, tellement de machines, de systèmes qui fonctionnent sous Windows et qui doivent continuer à fonctionner, qui sont des systèmes critiques, etc. C'est compliqué de tout faire basculer. Et pour pour la blague, pour la référence, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais les PowerPC dont tu parlais à l'instant, sur les processeurs du Mac qui ont équipé les Mac pendant très longtemps, c'était des processeurs RISC, des processeurs développés, hérités de ARM, dont d'ailleurs ARM, Apple était l'un des premiers investisseurs, un des membres fondateurs. Donc, au bout d'un moment, ils s'en sont désengagés et ils n'auraient peut-être pas dû parce qu'aujourd'hui, c'est une société qui est importante dans la tech. Enfin, ils s'en sortent pas trop mal non plus, Apple, de leur côté. Et du coup, on passe à notre deuxième sujet. On parlait de Windows. Eh bien, il y a des chiffres intéressants qui sont pas forcément avérés, mais qui semblent être confirmés par différentes sources. On compte aujourd'hui 400 millions de PC actifs sous Windows 11, et ça va beaucoup plus loin que les attentes de Microsoft. En fait, Microsoft ne pensait pas qu'ils iraient si vite dans la transition Windows 11. Et si vous vous dites, mais attends, Windows 10, c'est allé beaucoup plus vite, ils ont atteint 400 ou 500 millions en un an seulement. Dès 2020, Windows 10, il y avait 1 milliard d'utilisateurs sous Windows 10. Eh ben, ce n'est pas tout à fait le même contexte. Non seulement Windows 10 était vraiment gratuit pour tous les PC sous Windows 7 ou 8 et il n'y avait pas de conditions pour upgrader, mais en plus, pour Windows 11, il y avait une nécessité, enfin, comment dire, une condition matérielle que les PC devaient satisfaire, qui étaient des conditions de modernité, de sécurité, dont je ne vais pas détailler les détails, mais tout le monde ne pouvait pas installer Windows 10. Donc, Microsoft ne s'attendait pas à ce que
Windows 11.
Windows 11. Tout le monde ne pouvait pas installer Windows 11. Donc, Microsoft ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite. C'était seulement les PC construits en 2018 et plus tard qui étaient compatibles avec Windows 11. Ça a fait grincer des dents, d'ailleurs, au moment du lancement. Mais aujourd'hui, donc, on a quand même énormément de PC sous Windows 11. Et là, si vous vous dites, ah bah c'est bon, alors Windows 11, c'est terminé, on est tout le monde sous Windows 11, on va être content et on va s'arrêter là. Eh ben non. En 2024, si tout va bien, c'est Windows 12 qui devrait arriver. Et Windows 12 est censé faire un rafraîchissement de l'interface utilisateur, qui est, bon, un petit peu plus légère, un petit peu, pour être honnête, ça ressemble de plus en plus à une interface de Mac, ce qui n'est pas une mauvaise chose selon moi, mais surtout, évidemment, ce qui est le plus notable, c'est que ça devrait être la version de Windows qui y va à fond, sur l'IA. C'est la priorité absolue. Il y aura des fonctionnalités qui vont permettre à l'interface, à l'ordinateur, de lire le contenu de votre écran et de vous suggérer des choses, de créer des projets, de lancer des applications en fonction de ce qu'il y voit. Enfin, vraiment, Windows 12, ça devrait être le Windows de l'IA. Donc, Windows 10, Windows 11,
Windows Copilot, on l'appelait.
Windows Copilot, c'est ça, mais qui est encore plus, enfin vraiment intégré à l'interface, au fonctionnement de l'OS. D'une manière générale, il n'y a pas forcément énormément à dire sur tout ça, mais l'adoption de Windows 11, j'avoue que j'ai été un petit peu surpris, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de PC qui sont vieux sur le marché. Peut-être que la pandémie et le renouvellement des parcs au début de la pandémie a contribué à l'installation de Windows 11, c'est possible.
Après, t'as toujours, sur les versions de Windows, tu as toujours une latence au déploiement. Hein. C'est-à-dire que beaucoup vont décider d'attendre pour que les autres essuient les plâtres pour eux, en disant « Oula, on ne sait pas encore si ça va être bien, si ça va bien fonctionner, si mes pilotes vont être compatibles, etc. » On va attendre que les autres essayent. Et en général, c'est ça. Enfin, autour de moi, tu vois, tous ceux qui ne sont pas trop technophiles, ont plutôt tendance à dire « On va attendre. » Et ouais. Au bout d'un moment, ils voient que tout le monde autour d'eux, ça y est passé, ils disent « Bon, ben ok, en fait, il n'y a pas trop de risques, on y va. » Il y a cet effet-là sur le grand public. Après, il y a le renouvellement du parc aussi. C'est-à-dire que tu as le mise à jour de Windows, mais tu as aussi les gens qui, d'une année à l'autre, vont changer de PC. Ils vont acheter un nouveau PC, un portable, et du coup, tu viens avec la nouvelle version Windows, et paf, tu as ton activation qui se fait naturellement. Mais ouais, Windows 12, alors ça sera, je pense pas que ça sera une grosse révolution en termes d'OS à proprement parler. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait du risque et tout ça, je pense pas qu'ils fassent de gros changements là-dessus, sur le noyau de Windows, mais vraiment sur tout ce qui est productivité. Comme ils l'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup poussé sur. Tout ce qui est IA et Copilot, notamment sur la suite Office, déjà. Je le vois bien intégré au système derrière. Après, j'attends de voir l'usage, si ça sera vraiment bien intégré, ou si c'est ça vraiment juste, tu vois, du business et de la com, parce que ça fait du buzz en ce moment, pour dire, nous, on l'a intégré dans l'OS, et que derrière, ça ne sera pas forcément avec une vraie plus-value.
Ça sera à voir, effectivement, si la plus-value et l'augmentation de productivité est vraiment là. Ou si ça fait des trucs qui sont cool, mais on fait tellement mieux soi-même à la main qu'on va finir par ne plus trop s'en servir. Écoutez, ça, on verra. Ça va arriver, hein, Windows 12, dans pas si longtemps que ça. Ce qui est intéressant de noter, je vais vous parler pour le troisième sujet des appareils pliables, pliants, notamment chez Apple, mais en parlant d'IA, je le mettrai aussi dans la newsletter cet article, Apple, on a la confirmation par des sources bien informées que au niveau de l'IA, eh ben, ils ont vraiment été, comment dire, attrapés, enfin ils ont pas vu venir le truc, Apple, comme beaucoup d'autres, et quand on a, l'année dernière, commencé à découvrir les possibilités de l'IA générative avec Midjourney et ChatGPT, ça a été la panique totale chez Apple. Et donc, ils sont aujourd'hui au milieu d'un cycle de développement et d'intégration d'IA à tous leurs appareils, qui leur coûtent extrêmement cher. On parle $1 milliard, mais enfin, franchement, c'est tellement important qu'ils pourraient dépenser plus, ça ne me surprendrait pas. Mais donc, ce qui est intéressant là-dedans, on se doute bien qu'ils vont essayer d'intégrer ces outils, mais ce qui est intéressant, c'est de confirmer que ils ne l'ont pas vu venir et ils se sont retrouvés pris de vitesse par ces changements et que maintenant, ils font la course pour essayer de rattraper leur retard. Alors évidemment, ils travaillaient dans l'IA depuis longtemps, hein, mais l'intégration de l'IA générative à leurs outils, ce n'était pas du tout quelque chose qu'ils avaient envisagé de cette manière. Mais au-delà de ça, parlons un petit peu des appareils pliables, parce qu'on arrive peut-être à un moment où la technologie mature et il semblerait qu'Apple soit en train de travailler à l'implémentation, enfin à la création d'un appareil pliable, mais qui ne serait pas un iPhone. Il commencerait avec un iPad et le développement serait bien avancé déjà. Ils auraient développé une technologie matérielle de charnière qui permet d'avoir une fermeture vraiment plate, mais sans de charnière et d'écran, qui permet d'avoir une fermeture plate, mais sans pliure visible. Vraiment, une fois, en tout cas, le truc déplié, on ne voit plus du tout la pliure. Le problème, c'est que cet appareil coûterait, et cette technologie, cette charnière coûterait très cher à produire, et donc ça poserait des questions de marge pour Apple, et donc évidemment de faisabilité industrielle pour un produit comme celui-là. Ils en sont en fait, c'est ça qui est intéressant de noter, ils en sont à ce stade du développement. Donc leur produit, au niveau R&D, est prêt, ils ont quelque chose qu'ils pourraient exploiter, et qui fonctionnerait de manière satisfaisante au niveau matériel. Selon Digitimes, qui est à la source de ces informations, il pourrait produire un iPad pliant dès l'année prochaine, on va dire d'ici un an, fin 2024. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on voit de plus en plus de téléphones pliables et de tout type d'appareils pliables. On a vu des PC, des tablettes, etc. Et qu'on arrive, comme le dit MKBHD, Marcus Brownlee, en testant le OnePlus, comment il s'appelle ?
Open.
Le OnePlus Open. Eh ben, on arrive à une maturité, effectivement, de technologie au niveau matériel qui est indéniable. On voit presque plus la pliure, même pour ce type d'appareils qui sont déjà disponibles. On la voit quand même un tout petit peu, mais moins qu'il y a ne serait-ce qu'un an ou deux. Là où, moi, j'ai une vraie interrogation, comme pour tous ces types de produits, c'est est-ce que l'utilité sera avérée ? Et un grand test pour ce genre de choses, eh ben, c'est évidemment le moment où Apple arrive sur le marché. C'est toujours un moment où on se dit bah, « la technologie est mûre, on va voir ce qu'en fait Apple ». Et donc, ce que je voudrais voir,
l'indicateur,
plus qu'une charnière vraiment plate, sans pliure, c'est la manière dont Apple modifie son interface utilisateur pour tirer parti de ces deux écrans. Parce que si Apple, d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que si Apple n'arrive pas à amener une valeur ajoutée à ce type de technologie, eh ben, ça me paraît compliqué. Ça peut vouloir dire que la technologie n'a tout simplement pas de valeur ajoutée pour les utilisateurs et que c'est juste un truc marrant, sympa, mais qui risque de ne pas durer. Bon, c'est mon avis sur Apple. Je pense que c'est pas forcément.
Ça fait du sens. Non, puis t'as raison. Je pense que ça fait du sens en plus d'y aller sur un iPad parce que globalement, ça fait quoi le téléphone, enfin les écrans pliables, ça te rajoute plus d'espace et souvent ça te sert comme tu t'en sers quand même de deux écrans, c'est-à-dire que tu vas mettre soit deux applications, soit une dans ton application tu vas avoir deux parties d'interface qui vont être dédiées sur chacun des écrans, tu vas faire deux choses un peu différentes sur un écran sur l'autre. À part mater des vidéos ou lire du contenu où tu vas mettre vraiment en plein écran sur les deux en même temps, le reste c'est plus sur de la productivité pour des applications et ça en général c'est l'iPad qui le fait. Si tu l'as vu arriver sur les iPads Pro notamment avec le fait de pouvoir snapper plusieurs fenêtres etc. Donc ça a plus de sens pour moi d'arriver avec une interface comme ça au niveau de l'iPad. En tout cas iPadOS est sûrement plus proche d'offrir une expérience utilisateur qui va coller à ce genre d'usage matériel d'écran pliable que ne l'est aujourd'hui l'iPhone. C'est-à-dire que l'iPhone en termes d'application, en termes de SDK, donc tout ce que les développeurs ont entre les mains pour pouvoir développer sur un téléphone, je pense pas qu'il soit aussi prêt que peut être l'iPad pour accueillir un écran pliable, un hardware avec un écran pliable. Ça a du sens. Après, il y a tous les enjeux effectivement de production, de capacité de production matérielle qui sont. S'il devait faire un iPhone, en même temps, tu vois, c'est risqué de sortir un téléphone pliable en visant l'iPhone. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il ferait une troisième gamme dans l'iPhone ou ça serait un iPhone qui serait que pliable ? Ça serait un sacré prise de risque parce qu'aujourd'hui, le marché, il n'est pas encore. C'est pas un marché de masse encore, ça reste dans le milieu tech, c'est des tech addicts qui vont sur tout ça.
Oui, et
je les vois pas sortir un grand.
Enfin, l'iPhone, le produit est tellement important pour Apple que c'est compliqué de diluer un petit peu l'offre déjà qu'elle est un petit peu complexe. Et puis, si c'est un produit qui n'a pas une utilité avérée, ça peut effectivement impacter l'image de la marque en général et du produit spécifiquement. Donc, il vaut largement mieux commencer avec un iPad et éprouver la technologie, éprouver les bénéfices que ça peut avoir pour l'utilisateur et pour la productivité, et éventuellement à terme, un an, deux ans plus tard, potentiellement l'amener à quand en plus matériellement la technologie sera plus avancée peut-être, éventuellement l'amener sur iPhone si on estime que vraiment ça vaut le coup. Je pense que c'est
éprouver le logiciel. Éprouver les logiciels, éprouver l'écosystème, embarquer les développeurs pour que les applications puissent utiliser ce système-là, etc. Ouais. Une fois que tu as tout le monde là-dessus, là tu peux miser sur l'iPhone qui est quand même beaucoup plus risqué en termes de business effectivement et de prise de risque pour Apple. Ouais.
On est d'accord. Écoutez, on verra où on se situe à la fin de l'année. Je ne serais pas surpris que même si leur projet à ce stade soit de commencer à en produire en 2024, s'ils le produisent, c'est le genre de chose qui peut facilement être décalé de 6 mois, 1 an, voire plus. Un petit mot.
Moi, je t'avoue que ça commence à me chauffer quand même. Pardon.
Ça commence les à téléphones chauffer pliables, les iPads pliants, les trucs pliants.
Les téléphones pliables, ça commence un peu à me chauffer. Le OnePlus Open, il a l'air carrément vraiment pas mal.
Et je sais pas encore franchement.
Ouais, mais c'est ça, c'est le prix aujourd'hui qui est un vrai frein. C'est assez dingue quand même.
Un petit mot pour noter que John Stewart, le journaliste humoriste qui avait une émission sur Apple TV Plus, s'arrête de collaborer avec Apple. Et selon certaines sources, Stewart aurait voulu parler. C'est une émission dans laquelle il fait état d'un problème dans la société et il fait une enquête sur le sujet. Et généralement, il n'est pas super tendre. Eh bien, il semblerait que Stewart ait voulu évoquer des sujets comme la Chine ou l'IA. Et que du coup, évidemment, Apple n'était pas hyper enthousiaste à l'idée de voir John Stewart dire du mal de ces sujets sur Apple TV+, donc son émission The Problem, je crois, The Problem with John Stewart, a été interrompue, là, sans vraiment d'avertissement ou de sans finir de saison ou de savoir que ça allait se terminer. Et ça s'est passé un petit peu de manière abrupte, donc je voulais le mentionner. Et ça s'est passé au moment où Tim Cook était en voyage en Chine. Donc voilà, vous le savez. Avant de passer à notre partie news et rumeurs, je voudrais tout de même remercier les auditeurs et les auditrices qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon. Vous savez que l'émission existe grâce à vous. Elle est totalement créée en indépendant. Moi, je suis seul. Je n'ai pas de grosse boîte derrière. Je n'ai pas de gros médias. Je n'ai même pas de petits médias derrière. Je suis juste moi dans mon studio. Je fais ma veille, mon travail de préparation et tout ça. Et je me permets, grâce à votre soutien même, de rémunérer certains intervenants très réguliers, les gens que vous écoutez qui sont là chaque mois. J'ai également quelqu'un qui m'aide, Fanny, à la production, à la publication. Mais tout ça, évidemment, ça coûte des sous, sans parler du fait que j'ai besoin d'en vivre aussi. Et ces sous, ils viennent d'où ? Alors, en petite partie de la publicité que vous entendez si vous ne contribuez pas à l'émission, mais en majeure partie des contributions des auditeurs et des auditrices qui ont d'ailleurs accès à un flux sans publicité formidable, merveilleux, avec des contenus en plus. Et ça constitue l'essentiel des revenus de la société, hein, de la société qui est la société Patrick Béja. Et sans les contributions, ce travail ne serait pas possible. Donc j'aimerais vous encourager à au moins considérer l'idée de devenir contributeur sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Vous connaissez l'adresse, hein, le lien est dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, vous savez que quand vous mettez les clés dans le bol, vous pensez immédiatement à Patrick. Quand les clés font cling dans le bol, vous vous dites oh, « Kling, Patrick, il faut que j'aille sur mon ordinateur, sur patreon.com/rdvtech pour voir si ça pourrait m'intéresser ». Et il y a des contenus intéressants, en plus de la fierté, évidemment, de contribuer à ce projet. Il y a des contenus intéressants. J'ai mis récemment en ligne, pour le Patreon, des discussions qu'on avait après la fin de l'enregistrement. Et qui n'était pas disponible ailleurs, mais qui m'avait paru intéressante. Et on a parlé, par exemple, de la manière dont les créateurs envisagent les nouveaux outils comme TikTok, avec des gens qui participaient au rendez-vous jeu, avec Trinity, qui est une streameuse, Otaksu, qui est un streamer et un YouTuber. On a parlé également de la consommation énergétique de The Sphere, la grosse boule de Las Vegas, là. Et on a eu une discussion qui, sur une longue durée, a fini par arriver à des faits sur lesquels on pouvait s'accorder, et le processus était intéressant. J'ai parlé de différentes choses. J'ai réuni tout ça et je l'ai mis en contenu disponible uniquement pour les contributeurs patriotes. Donc voilà, il y a des contenus comme ça, il y a plein de choses, et évidemment l'émission sans pub, etc., etc., sans même cette petite partie au milieu, ce laïus. Si ça vous intéresse, patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à tous et à toutes et à tous et à tous.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On continue avec un sujet Apple, encore un. On parle de... C'est intéressant parce qu'on se disait au moment où ils annonçaient leur montre neutre en carbone que, eh ben, il faudrait attendre les études des différentes ONG qui allaient nous dire si effectivement la montre est neutre ou pas, etc. Et on commence déjà à voir ces rapports. On en parlait la semaine dernière avec des gens qui étaient un petit peu dubitatifs, mais bon, quand même, mais pour la montre, et bien là, on a une société, enfin une ONG qui s'appelle, que je me souvienne du nom de l'ONG, c'est Stand.Earth, Stand.Earth, qui a étudié en fait les GAFAM en général, on va dire les plus grandes sociétés de la tech, et Apple en particulier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent que oui, pour la montre, ils sont peut-être allés un petit peu vite en besogne pour dire elle est neutre en carbone, mais, alors un petit peu, hein, c'est pas complètement usurpé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme on le sent et comme ils le disent, Apple est de loin le meilleur élève de la tech pour leurs efforts en matière de développement durable et de renouvellement de leur production. Ils sont de loin les meilleurs élèves, en grande partie parce qu'ils imposent à leurs fournisseurs également des objectifs clairs. Même s'il y a un problème de lisibilité à ce niveau-là, ce dont nous parlaient les ONG dont on parlait la semaine dernière, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Apple semble effectivement être, c'est même pas semble, je peux arrêter de prendre des pincettes, d'après les rapports de Stand.Earth, bah, Apple est de loin le meilleur élève et ils font des choses substantielles. Donc, si on attendait la confirmation ou l'information de spécialistes dans le domaine, c'est pas juste cette étude, ce rapport, mais tout semble confirmer que, bah oui, Apple fait plutôt pas mal dans ce domaine. Donc c'est plutôt enthousiasmant, même si, évidemment, je sens monter les objections. Évidemment, on n'est pas rendu, enfin, on n'est pas encore rendu et il y a encore beaucoup de choses à faire et Apple peut et doit mieux faire et tous les autres aussi. Mais tout semble indiquer que, bah oui, Apple, ils sont plutôt dans la bonne direction, on va dire, et beaucoup plus que les autres.
Et c'est pas rien de le dire parce que franchement, c'est pas le meilleur milieu, on va dire, pour tout ce qui est combat contre le climat, contre le changement de climat, toute la partie tech, hein, parce qu'on est quand même consommateur de beaucoup d'énergie. On parlait de cloud tout à l'heure, on consomme beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup
avec
de matériaux, de ressources. Avec l'IA, ça pense améliorant les usages, le streaming, enfin, c'est un des trucs. C'est pas le premier, mais je me rappelle plus dans quelle proportion c'est, mais c'est quand même dans les top 10, je crois, des industries en général.
Non, au niveau total, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, l'industrie tech représente, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 % des consommations énergétiques. Donc, c'est pas négligeable et il faut améliorer. Il faut noter que la plus grosse partie vient de la production de matériel et notamment d'écran. C'est surtout au niveau matériel que que les marges de progression sont importantes. Voilà, on nous dit dans la chatroom, 4% des émissions, c'est à peu près ce dont je me souvenais. Mais c'est vraiment dans la fabrication. La consommation, ensuite, est moins... Même si on a des augmentations, par exemple, avec l'IA de la consommation, effectivement, des fermes de serveurs, c'est pas là qu'est le plus gros de la consommation, c'est vraiment dans la fabrication de matériel. Et c'est pour ça que on prend en considération des sociétés comme Apple, Dell, Google, HP, Microsoft, etc., qui sont des fabricants, Nvidia, tout ça. Un autre sujet qui fait peut-être un peu moins plaisir, c'est l'augmentation des tarifs en France de Netflix. Netflix augmente encore une fois ses tarifs. C'est, je ne sais plus, la deuxième ou troisième fois en quelques années. On passe pour le premium de 17,99 à 19,99. Pour l'abonnement essentiel, on est de 8,99 à 10,99. Bon, alors évidemment, ça ne fait pas plaisir, hein, mais moi, je continue à dire que la situation est quand même meilleure qu'à l'époque où on avait les bundles, les packs de câbles et de satellites où on s'abonnait à 72 chaînes différentes pour 150 €. La moitié dont on n'avait pas besoin, et on n'avait pas le choix, il fallait qu'on prenne le package entier, et on s'abonnait sur un an, deux ans, et on ne pouvait pas interrompre son abonnement. Bon, aujourd'hui, les gens vont dire « Ah, mais on a trop d'abonnements, machin. » Bah, désabonne-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, tu te désabonnes. C'est simple.
T'as le choix, c'est vrai, t'as le choix, tu peux le faire sur un mois, sur l'autre. Et après, je suis curieux de voir l'impact que ça aura sur... sur le nombre d'abonnés en France, c'est sur le nombre de tarifs. Parce que moi, j'ai commencé à voir autour de moi, alors après, je ne suis pas représentatif de ce qui va se passer en France, mais je commence à voir des gens désabonnés, justement. Suite à cette annonce-là, ils ont dit, bah non, tu vois, le rapport prix par rapport à contenu que tu consommes, l'intérêt que tu peux voir dedans, il commence à être un peu... Je pense que ça monte un petit peu, là.
Donc, et c'est ça qui est parfait. C'est que si ça, plus, si ça n'a plus suffisamment de valeur pour toi... Bah, t'arrêtes de t'abonner, t'arrêtes de payer. Et il y a des gens qui disent aussi « Oh, mais c'est dégueulasse, ils commencent les prix super bas et après, ils les montent. »
T'as deux façons de le faire.
Dans cette mécanique, tu vois, ils disent « Oh, mais ils tapatent avec des prix super bas et après, ils les montent. » Mais tu t'en fous. Je veux dire, si ça vaut plus la peine après pour toi, tu peux arrêter de t'abonner. Et c'est toi qui as bénéficié d'un prix discount au début, et donc tu as eu du contenu cool à un prix qui était inférieur à ce que tu aurais dû payer, puisque on dit
ouais, mais ça c'était pas marketé comme ça.
Ils perdent de l'argent et ils tapatent. Bah oui, donc c'est toi qui as tiré avantage, qui as tiré parti de ce truc. Et après, si c'est plus intéressant pour toi, si ça vaut plus ce prix-là, bah t'arrêtes de t'abonner. Ah, et quand on me dit ah ouais, mais on a pris l'habitude, donc on veut quand même payer. Bah donc ça veut dire que tu veux le truc et que pour toi ça vaut ce prix. Donc je comprends. Enfin, je comprends la réaction de ah bah non, ça devient plus cher, ça me frustre. Évidemment que je le comprends. Mais on peut se désabonner. On a bénéficié d'un prix réduit pour.
Mais ça n'a pas été un prix réduit. Ça n'a jamais été communiqué avant. Comme ça.
C'est bénéfice pour nous, pour le consommateur. Non, je fais un minimum de provoque, mais quand même, il y a de la vérité dans ce que je dis, non, Christophe ?
C'était pas un prix réduit, ça n'a jamais été communiqué comme tel. Ça a été le prix à l'époque. Ils n'ont jamais dit que c'était un prix discount, ça n'a jamais été un truc comme ça. Ce qu'il y a, c'est que les gens se sont habitués.
C'est le prix. Si on est dans l'idée, regarde, ils veulent tapater avec un prix hyper bas. Et ensuite, ils montent le prix, tu vois, ils font une sorte de dumping pour t'intéresser. Ça veut dire que le juste prix, il est plus haut que le prix de promo, entre guillemets, qu'ils ont créé au début pour t'appâter.
Ouais, mais ça, c'est parce que toi, t'as le recul
côté
marché.
Le juste prix, c'est toujours le prix que les gens sont prêts à payer. Le juste prix, ça n'existe pas. Le juste prix, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Si le prix est maintenant trop élevé pour que ça t'intéresse, bah ça veut dire que c'est plus le juste prix et que donc t'es plus intéressé. Mais si l'augmentation précédente à 17,90, elle te convenait, et que le prix d'avant à 12,99, tu disais « Ah, bah c'est une super affaire !» Bah, tu faisais une super affaire pendant X temps. Et maintenant, bah c'est plus une super affaire, donc tu le veux plus. Enfin, j'ai du mal à comprendre, au-delà de la réaction un petit peu, comment dire, épidermique de « Oh merde, ils augmentent les prix, ça me fait chier !» Ce que je comprends, évidemment. Mais au-delà de ça, j'ai du mal à comprendre l'idée qu'on nous arnaque. Tu vois, il y a une sorte de discours sur Internet. « Oh, ben, ils nous ont bien eu, ils nous ont bien arnaqué. » Non, ils ont arnaqué personne. Ils t'ont offert un service à un prix qui te paraissait intéressant pendant longtemps, puis ils ont augmenté le prix et tu pensais que ça valait toujours la peine, donc tu as continué à payer. Et là, enfin, ils arrivent à un prix que tu estimes qui ne vaut pas la peine, t'arrêtes de payer. Mais quel est le problème? Quel est, et je fais encore une fois un tout petit peu de provoque en disant ça, mais vraiment, quel est le problème? Où est ton problème, monsieur, madame? Je comprends pas. Tu veux pas payer, tu payes plus. T'as pas d'abonnement qui t'oblige à rester en place. T'as 1000 autres services qui sont moins chers, qui peuvent être intéressants. T'as YouTube qui peut être gratuit. Enfin, fais ce que tu veux, t'es libre. Non, le consommateur, non, mais... le client, le citoyen a énormément de choix dans ce marché, alors qu'il y a 20 ans, c'était complètement bouché. Et là, il y avait des techniques perverses, tu vois, des techniques de verrouillage de marché, des... Non,
Non, t'as pas complètement tort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas que le tu veux, il y a aussi le tu peux. C'est-à-dire que monter les tarifs comme ça, c'est peut-être des gens qui vont plus pouvoir se le permettre aussi derrière, de se dire bah je peux plus m'abonner parce que non, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que je peux mettre dedans. Et du coup, qui va être une frustration. T'as pas que la frustration du prix qui augmente, t'as la frustration de plus pouvoir te permettre de payer ce genre de service. Ça, c'est enfin. Ça dépend du revenu des foyers. Alors après, l'augmentation de tarifs, est-ce qu'elle est liée aussi à l'inflation? Est-ce que les salaires ont suivi derrière? T'as plein de choses qui rentrent en compte derrière. C'est pas juste est-ce que le service est plus intéressant qu'il l'était avant? Non, pas forcément. Je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup, mais c'est très psychologique du point de vue du consommateur. C'est que t'augmentes tes tarifs pour un même service. Du coup, tu vas t'attendre à dire, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu m'apportes de plus? Et le premier réflexe que tu vas avoir, c'est pas de te dire, ben, en fait, avant, c'était juste discount. Non, parce que ça n'a jamais été marketé comme tel. Ça n'a jamais été vendu comme on vous fait une fleur jusqu'à présent. Mais non, attendez.
C'est ce que disent les gens. T'anticipes. Ils nous ont appâté avec le truc. Appâté, ça veut forcément dire qu'ils vendaient à un prix réduit, tu vois. La réaction, on le dit même dans la chatroom, là. Ils disent spécifiquement dans la chatroom, bah, si on t'appâte avec un prix bas, tu t'habitues et hop, on augmente les prix. Bah, si on t'appâte, ça veut dire que le prix est bas. Tu vois, c'est ce qu'ils disent spécifiquement. On tapate avec un prix bas. Dans cette réflexion, il faut être honnête. Si tu te fais cette réflexion, tu te dis on tapate avec un prix bas, ça veut dire que psychologiquement, on a essayé de te donner un service qui était moins cher que ce qu'il valait, puisqu'on essaye de tapater, non?
Les salauds, ils m'ont eu. Comme quoi, tu vois,
oui,
les marketeurs...
C'est exactement ça. C'est ça que disent les gens.
Ben oui, non, mais en même temps, si tu regardes... Ah oui, d'accord. Alors, du coup, je vais aller de ton côté, mais ça, tu peux pas tout traiter de ça parce que tu peux pas tout traiter de ça parce que le marketing est partout et fonctionne de manière générale comme ça. Donc forcément, je veux dire, les gens ils ont compris comment ça marche. Donc à partir de là, je me suis encore fait avoir, mince.
Mais oui, mais c'est même pas le truc, c'est que c'est même pas je me suis fait avoir. Si t'appâtes avec un prix bas qui t'engage sur un an, deux ans, et après tu peux pas te désabonner avant la fin du truc et le prix augmente, non, ouais, là. Tu t'es fait avoir. Mais le fait qu'ils t'aient proposé un prix bas, qu'ils t'aient proposé des contenus intéressants pendant X temps, et après ils augmentent les prix, ils disent « bon, bah, si tu veux pas, tu te barres ». Bah, tu te barres. Si tu veux pas, tu te barres, littéralement. Et ensuite, si jamais trop de gens se barrent, bah, Netflix va dire « ah oui, merde, on a fait trop cher, donc on réduit les prix ». Et je vais continuer dans la provoque. S'il y a des gens pour qui ça devient trop cher et qui ne peuvent plus se le permettre... C'est malheureux, mais d'une part, les mécaniques de marché vont faire que bah, s'il n'y a plus assez de gens, ils vont rebaisser les prix ou ils vont changer leur offre. Mais d'autre part, écoutez, je suis désolé, mais il y a toujours des choses qui sont trop chères pour des gens, tu vois. Il y a des offres quand même qui sont relativement raisonnables chez Netflix encore. Il y a des offres avec pub, etc., même si elles sont moins mises en avant. Il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas se permettre certaines choses. Moi, je ne peux pas me permettre des trucs. Enfin, ça dépend. Est-ce qu'on estime que c'est un produit de luxe? Est-ce qu'on estime que c'est un produit première nécessité, machin? Netflix, ce n'est pas un produit de première nécessité non plus, tu vois. On n'est pas en train de price gouger sur le lait et le pain, quoi. Donc,
Et en plus,
pour conclure sur ça, peut-être que mon discours serait différent si le piratage n'existait pas. Je ne cautionne pas le piratage, mais d'une certaine manière, c'est un levier de régulation aussi. Aujourd'hui, le piratage, évidemment qu'il y a encore des gens qui piratent, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Si la problématique devient vraiment, vraiment problématique, eh ben, le piratage peut remettre une pression, peut regagner en popularité, remettre une pression sur ces sociétés qui seront obligées de revoir leurs offres. C'est ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années et ça a donné la situation dans laquelle on est aujourd'hui qui est avantageuse, je trouve.
Il y a deux choses intéressantes là que je retiens sur la dernière chose que tu as dite là, c'est ça définit la valeur des choses, effectivement. Le prix que tu mets dessus et les gens qui s'abonnent, qui l'achètent ou pas, c'est ça qui définit la valeur des choses derrière. Donc oui, on le dit dans la chatroom, c'est pareil, quoi, c'est voter avec votre argent. C'est-à-dire que si pour vous ça considère, enfin vous considérez que ça n'a plus cette valeur là, ben, désabonnez-vous, et puis ça fera réagir forcément derrière Netflix, ils vont rajouter derrière. L'autre truc que je voulais quand même rajouter, c'est
surtout que pardon,
c'est pas on n'est pas sur un bien point de
réagir, excuse-moi Christophe, juste, il y a de la concurrence. On a une concurrence hyper saine, on en a limite trop, et pas que des autres services de streaming, de la télé, de YouTube, de plein de trucs. Mais donc oui, ça fonctionne ce système.
La particularité en plus, c'est que c'est pas n'importe quel service, c'est-à-dire que là, tu touches du doigt une partie de la culture aussi. Et là, c'est un sujet un peu sensible, notamment en France, sur l'accès, tu vois, l'accessibilité à la culture. Et c'est pas, tu vois, c'est pas un iPhone, c'est pas t'achètes l'iPhone, tu peux pas te le permettre ou comme ça. Là, tu dis, bah, il y a des choses que je vais pas pouvoir voir, et puis il y a des contenus, je sais pas, documentaires, des trucs films français, des choses comme ça, auxquels tu vas pas forcément pouvoir avoir accès. Et là, c'est un peu plus touchy quand même, tu vois, comme discussion.
Ah oui, d'ailleurs, dans la chatroom, on me dit, oui, mais là, tu tombes dans un discours élitiste, bah, si t'es pauvre, tant pis pour ta gueule, l'accès qu'aux riches. Mais enfin, je suis désolé, la société fonctionne comme ça. Si tu peux pas aller au ciné, t'as pas accès à une partie de la culture. Entre parenthèses, une place de ciné, c'est le prix d'un abonnement Netflix. Si t'avais pas accès à Canal Plus à l'époque, si t'avais pas accès aux chaînes du câble, bah oui, tant pis pour ta gueule, t'es pauvre. C'est pour ça que je parlais de produits de première nécessité. Je veux pas faire de l'élitisme, mais je crois qu'à l'inverse, les gens qui vont dire, est-ce que Netflix est un produit de première nécessité maintenant ? Je crois pas. Ou alors, le monde est tellement va tellement bien et tout le monde a tellement accès à tellement de richesses et de choses. Et je pense, moi, je serais plutôt sur cette ligne, qu'on considère que Netflix est un produit de première nécessité, qu'on considère que l'accès à cette culture spécifique est tellement importante dans notre vie tous les jours qu'il faudrait quand même, si ça coûte 14 euros, c'est trop cher. Tu vois, c'est les produits de première nécessité, entre guillemets, c'est plus la bouffe et la santé et machin, c'est l'accès à Netflix. Soyons sérieux deux secondes. La littérature, est-ce qu'on a accès à toute la littérature, à tout ? Alors oui, tu peux aller à ta médiathèque, mais je veux dire, si tu peux pas acheter un livre, tu peux pas acheter le dernier Goncourt parce que t'as pas les moyens de te le payer, je suis désolé, personne va venir dire « Oh, mais enfin, quand même, rendez-vous compte, les pauvres n'ont pas accès au dernier Goncourt, c'est élitiste. »
Oui, t'as raison, mais c'est pas dans le Netflix, c'est-à-dire que c'est pas la société privée qui doit gérer ça, c'est au niveau de l'État, c'est au niveau du gouvernement qui doit mettre ça en place, les plateformes pour donner accès à la culture. Donc tu peux pas râler contre Netflix parce qu'ils te ferment la porte à ça, ou ils te donnent plus le moyen parce que c'est trop cher pour toi. Ça va être plutôt à l'État de favoriser l'accès à ça derrière. Donc ça peut être le Pass Culture, par exemple, qui te permet de prendre des abonnements sur des plateformes de streaming comme ça, ou travailler sur des plateformes de streaming alternatives pour que tes médiathèques puissent partager du contenu en ligne. Moi je le vois là où je suis sur Bordeaux, les médiathèques sont regroupées sur toutes les villes autour et t'as accès en plus, tu vois, de pouvoir emprunter tes bouquins ou tes DVD, puisqu'il y en a encore dans ta médiathèque locale. Tu peux accéder à une plateforme pour lire des... Enfin, ça reste particulier, c'est-à-dire que tu empruntes un e-book, voilà, donc à un moment il faut le rendre aussi.
Ils ont un nombre limité d'e-book et tu dois, oui. Ouais. C'est pour reproduire le système. Mais c'est normal parce que sinon tu pourrais louer 14 millions, personne n'achèterait de livres, tu vois.
Et voilà, c'est la valeur des choses. Tu vois, on en revient, tu dévalues parce que du coup, c'est accessible de trop. Et il commence à faire pareil sur le contenu vidéo. Alors oui, c'est pas la même expérience encore, mais et c'est là où ça va être hyper touchy, c'est que on nous reparle aussi du piratage derrière. Mais c'est, tu vois, aujourd'hui, est-ce que le fait de pirater, parce que c'est pas forcément toujours gratuit, il faut quand même mettre en place des choses derrière, il te faut une machine qui tourne, ça coûte de l'électricité, tu peux prendre un serveur hébergé, ou il faut que tu payes des services en plus. Donc est-ce que le curseur aujourd'hui va pas dépasser aussi la complexité de revenir à des plateformes de piratage qui vont... je vais rebondir sur une autre actu que j'ai vue il y a pas longtemps.
Si on a besoin du piratage un jour, tu vois, le piratage existe toujours et mais c'est pas le sujet principal.
T'as vu,
c'est juste que
t'as vu la com de
trop cher, le piratage est un levier sociétal qui fonctionnera aussi, quoi. Il y aura des
le marché noir, le marché gris. Et Plex, t'as vu l'annonce de Plex qu'ils ont faite récemment sur leur abonnement? Parce que Plex, alors qui est une plateforme de diffusion de contenu, en général pour des fichiers que tu héberges toi, donc tes films de vacances, mais ils ont réduit leur abonnement Plex Pass, je crois, pour empêcher justement le fait que les gens créent des plateformes de streaming maison et qui partagent avec la terre entière, quoi. Au début, tu partages ça avec ta famille, et après, tu commences à partager à beaucoup de monde et tu crées un marché alternatif où du coup, tu as des abonnements,
c'est risqué,
toi, tu as
des
contenus illégaux. Mais Plex, c'est commencé à se rendre compte que dans ses utilisateurs, ils commençaient à avoir, parce qu'ils ont du coup cet abonnement avec un service cloud chez eux, ils commençaient à avoir des volumétries de gens qui mettaient ça en place. Donc ils commençaient à monter des plateformes de streaming, tu commençais à avoir beaucoup d'utilisateurs. Ben ouais, mais c'est pour te dire qu'aujourd'hui, ça s'est tellement facilité, ces plateformes-là, aujourd'hui, qu'à une époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'accéder aux... On en revient un petit peu.
C'est pour ça que je suis pas très inquiet sur ces choses-là, parce qu'il y a le gendarme de du piratage qui fait que si ça devient vraiment inaccessible, vraiment trop cher. Et on me dit dans la chatroom, donc c'est pas grave, les pauvres peuvent pas se divertir, ils ont qu'à regarder leurs ongles pousser. Mais enfin, calmez-vous un instant, faut pas. Je veux dire.
Il y a la télé, non.
La suite de ce discours, c'est des habitués que je salue qui disent ça là, mais la suite de ce discours, c'est qu'il faut imposer des prix planchers, des prix plafonds à Netflix. C'est ça que vous êtes en train de dire? Enfin, calmons-nous.
Si tu fais ça, ça veut dire que tu auras un impact sur la qualité du contenu qui sera produit. C'est-à-dire qu'ils vont plus avoir les mêmes budgets, les mêmes contenus.
C'est pas sérieux, je suis désolé, c'est pas sérieux du tout. Je pensais pas qu'on allait faire une demi-heure sur Netflix. Je me suis dit, on va mentionner le truc en passant, ça va être très rapidement évacué. Je pensais pas qu'on ferait aussi longtemps là-dessus. On dit tu pousses un peu le curseur pour voir mon avocat du diable, donc je pousse un peu aussi. Ouais, mon avocat est plus convaincant, je trouve, mais on nous dira. Commentez sur les réseaux, sur Blue Sky, sur le Discord, tout ça, sur ce sujet, c'est hyper intéressant. Merci d'y avoir participé. Et entre parenthèses, le kicker, la suite dans tout ça, c'est que les revenus de Netflix sur le troisième trimestre ont augmenté de presque 8%. Et les abonnements ont augmenté de plus de 10% d'une année sur l'autre. Donc, il y a de plus en plus d'abonnés. Donc, évidemment, c'est pour ça que j'ai jamais dit Netflix, tu vois. C'est une question de juste prix, mais eux, ils maximisent leurs bénéfices. C'est évident. Je veux dire, c'est même pas une question qui se pose, quoi. Et entre parenthèses, certains services de streaming mettent maintenant des pubs, de plus en plus de pubs quand on est en pause. Genre aux États-Unis, il y a Peacock, Hulu, Max qui mettent de la pub. Et Max, c'est HBO. Hein. Ils mettent de la pub quand on est en pause. C'est marrant, non? Bon, en même temps, peut-être que c'est de la pub pour leurs propres émissions, pour en découvrir. C'est de la découverte, c'est important. Snapchat, je vous parle souvent de Snapchat en disant que c'est un petit peu le réseau social oublié qui a failli couler il y a quelques années et qui remonte la pente de manière hyper impressionnante. On a eu une confirmation, enfin ils ont aujourd'hui presque 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. 500 millions, c'est monstrueux, c'est plus que Twitter, alors on n'est pas au niveau de Instagram ou Facebook évidemment, mais 500 millions, ils étaient il y a quelques années à quelque chose comme 100, 150 millions, c'est vraiment, vraiment surprenant. On est à 475 millions spécifiquement. Et d'un autre côté, ils mettent en place un outil pour permettre de faire un embed des snaps dans les pages web, comme font tous les réseaux sociaux depuis des années. Mais ça va leur permettre de gagner un petit peu plus en visibilité. Et Snapchat n'est vraiment pas à oublier, quoi. Et c'est très utilisé par les plus jeunes, hein, Snapchat. Mais vraiment, c'est une histoire. Il faudra qu'on en parle un jour. C'est une histoire incroyable, l'histoire de Snapchat. Et à côté de ça, TikTok est en train de tester visiblement des vidéos de 15 minutes. On était à passer à 10 minutes l'année dernière, il y a presque 2 ans. Et là, ils sont en train de tester des vidéos de 15 minutes. Alors, 15 minutes, on commence à vraiment chasser sur les terres de YouTube. Hein. YouTube, les shorts, ils sont limités à 1 minute parce qu'ils ont déjà un format long. Enfin, YouTube, c'est du format long, long entre guillemets, plus d'une minute entre 5, 10, 15, 20 et plus. TikTok est en train d'aller essayer de chasser sur les terres de YouTube sous des formes un petit peu différentes, mais 15 minutes, ça commence à devenir assez long. En parlant de YouTube, ils sont en train de tester l'idée d'avoir, quand on regarde des vidéos sur des sujets d'actualité, ils vous proposent une interface différente qui va vous présenter des contenus d'autorité. C'est quoi les contenus d'autorité ? C'est des contenus de publications qui sont des publications sérieuses,
des sources vérifiées, tout ça.
Des sources vérifiées, des sites de presse, etc., etc. Et c'est intéressant de voir ça par rapport à ce qui se passe sur le reste des réseaux sociaux. Donc YouTube fait vraiment un effort pour avoir des contenus vérifiés par rapport à d'autres réseaux qui limitent la promotion des infos. Évidemment, sur X/Twitter, un délitement complet de l'information et de l'information d'autorité, justement, spécifiquement. Donc YouTube fait des efforts en ce sens-là. Et il y a aussi, je le mettrai dans la newsletter, il y a aussi un truc intéressant par rapport à l'IA, c'est que YouTube est en train de négocier avec l'industrie de la musique pour un outil qu'ils sont en train de développer qui permet aux créateurs de contenu d'utiliser une voix IA clonée d'artistes existants pour enregistrer des nouvelles choses. C'est pas tellement le sujet qui est intéressant parce que là, bon, évidemment, l'industrie de la musique veut que les artistes soient rémunérés pour ça, que le sourçage des contributeurs soit bien fait, donc de qui il s'agit, de quel artiste on utilise la voix, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que encore une fois, on a une industrie qui reconnaît que cette technologie est inévitable et qui discute avec les sociétés qui l'implémentent pour que ça soit bien fait plutôt que de se battre de manière un petit peu perdue pour l'interdire. Enfin, perdu, c'est pas forcément perdu, c'est pas impossible, peut-être qu'ils y arriveraient, mais en tout cas, ils travaillent pour que les choses soient bien faites plutôt que de se battre contre. Et j'ai trouvé cet aspect vraiment intéressant.
YouTube, ils ont toujours eu quand même une grosse proportion à travailler bien avec les ayants droit, hein.
Alors depuis quelques années, après les catastrophes, il y a quelques temps.
Oui, non, mais ils ont bien redressé la barre dessus. T'as un petit peu trop à un moment donné, ils ont le curseur un peu loin quand même, au détriment des créateurs de contenu. Mais là, l'approcher de ce biais-là, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, je suis très curieux de voir comment ça va. Ils vont en sortir quelque chose de ça. Notamment parce qu'il y a la partie IA, mais il n'y a pas que ça. C'est que c'est vraiment ça va se démocratiser, ça va se généraliser. On peut pas aller contre ça de toute façon. Donc, comment on va arriver à faire évoluer les mentalités et l'industrie aussi pour que ça puisse devenir quelque chose qui se fasse dans les conditions normales, on va dire, légales d'utilisation des droits. Je suis très curieux de voir ça. C'est un vrai changement hein, dans le business, dans plein de choses. Et pas que dans la consommation.
C'est vraiment intéressant de voir que les industries qui sont traditionnellement très résistantes à ce genre de changement provoqué par la technologie, là, accepte de discuter, de négocier. On l'a vu avec les auteurs de Hollywood qui ont réussi à trouver un accord avec les studios concernant l'IA notamment. On le voit avec la musique ici. Enfin, vraiment, moi, je pensais que ça aurait pu donner lieu à des combats légaux interminables. En fait, personne n'a envie que ça se transforme en bataille légale, quoi, j'ai l'impression.
Après, la musique, ça casse. A quand même été révolutionné plusieurs fois déjà. Donc, est-ce que du coup maintenant ils sont prêts à se dire on va éviter d'aller contre le changement, on va peut-être l'embrasser et faire que ça aille quand même un peu dans notre sens, qu'on y trouve une valeur aussi pour nous, plutôt qu'aller contre. Ouais, parce que ouais, quand le streaming est arrivé, Spotify et tout ça, la musique, ils ont essayé d'aller contre. Et finalement, ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas aller contre ça, quoi. Peut-être que maintenant, c'est la même chose, tu vois, ils ont compris qu'il faut l'embrasser.
À propos de problèmes légaux, il y a un truc intéressant qui s'est passé dans la Cour suprême du Colorado, pas des États-Unis dans leur ensemble, mais de l'État du Colorado spécifiquement, où la Cour suprême a jugé qu'un mandat de recherche, oui, c'est comme ça qu'on va dire, une mandat de perquisition, était valide, ou en tout cas que les preuves obtenues grâce à ce mandat de perquisition ou de recherche étaient valides. Et c'est une première parce que ce mandat demandait à Google d'avoir les identités, ou en tout cas les adresses IP, de personnes qui avaient fait des recherches par mots-clés sur une période donnée. C'est-à-dire que, précisément, ils n'ont pas demandé si une personne spécifique avait fait telle ou telle recherche, mais ils ont dit « donnez-moi les noms ou les adresses IP de toutes les personnes
qui ont cherché
qui ont fait telle recherche entre telle et telle période ». Et traditionnellement, particulièrement aux États-Unis, c'est considéré comme des phishing expeditions. Une phishing expedition, dans le jargon légal, c'est une demande d'une autorité qui est tellement large qu'on se dit, ils n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent, ils font une demande qui est trop large et ils espèrent avoir un résultat dans ce qu'on va leur fournir. Et ça, c'est traditionnellement très mal vu de la justice. Et bien là, la Cour suprême du Colorado a dit, OK, c'est valable. Il faut quand même noter que la demande, les mots-clés qui étaient recherchés, c'était une adresse d'une personne qui a été, je crois, qui a été tué, ou enfin en tout cas il y avait un crime chez une personne spécifique, et le mot-clé, peut-être que c'est pour ça que la Cour suprême a dit OK, le mot-clé c'était une adresse spécifique sur une période qui précédait le crime. Donc là, peut-être que la Cour suprême s'est dit OK, c'est quand même une phishing expedition entre guillemets, mais c'est tellement ciblé sur le mot-clé que une personne qui va chercher l'adresse de cette personne a clairement une intention en tête. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont admis la chose. Mais c'est intéressant de noter que c'est la première fois qu'un mandat de ce type, donc encore une fois, je reprécise, ils n'ont pas cherché à savoir ce qu'une personne spécifique qui était peut-être un suspect avait cherché sur Google, mais ils ont demandé les identités de toutes les personnes qui avaient fait cette recherche-là sur une période donnée. Et ça, c'est de l'exceptionnel. Le
lien sera la vraie question, c'est est-ce que ça va pas, tu vois, ouvrir la porte à d'autres demandes de ce genre? Parce que maintenant on va se dire, ah ben ça y est, regardez, on sait le faire, c'est facile. Et en plus, ça a marché, on a trouvé les coupables et tout, nickel. Donc maintenant, allons-y gaiement. C'est le risque qu'il peut y avoir derrière. Mais
Et c'est pour ça que généralement, ce genre de pratique n'est pas accepté, parce que souvent, dans les cadres des enquêtes spécifiques, eh ben, c'est cohérent de faire ce genre de demande. Mais le risque, c'est le débordement. Et c'est ça que les autorités légales essayent d'éviter, généralement. Le projet Silica, auquel s'est associé Microsoft, est un projet qui m'a beaucoup impressionné. C'est un moyen de stocker des données de manière très durable dans du verre. C'est des petites plaques de verre qui ressemblent à des coasters, des sous-verres, en quelque sorte, dans lesquels on inscrit énormément de données au laser. On va les graver dans le verre et on peut les archiver pour des milliers et des milliers d'années. Ils ne s'endommagent pas. Et en fait, le problème, c'est que tous les supports qu'on a aujourd'hui ont une durée de vie qui est hyper limitée, vraiment très limitée. On parle de quelques années, au mieux une décennie, au mieux du mieux, si vraiment on archive tout ça dans le noir, sans humidité, etc., ça va durer un peu plus longtemps. Mais quand on pense à l'archivage sur le long terme, quelques centaines, quelques milliers d'années, on n'a pas de solution. Il faut qu'on recopie constamment les données qu'on veut archiver, pour qu'elle soit conservée et qu'on copie sur des bandes magnétiques, sur des disques durs, etc. etc. L'idée, moi, me séduit, et on en parlait sur le Discord. D'ailleurs, c'est du Discord que vient ce sujet, comme c'est le cas parfois de sujets dont je parle dans l'émission. Donc, je remercie tous ceux qui contribuent sur le Discord. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Non, mais enfin, oui, c'est marrant comme concept, mais qui va utiliser ça ? Quelles données, de quelles données est-ce qu'on a besoin de stocker sur des milliers d'années, telles quelles, sans avoir à les modifier, machin ?» Moi, je me dis « Mais il y a énormément d'archives qui sont importantes. » Tu vois, l'archive de toute la musique, la littérature, l'Internet, tu vois, tout le Wayback Machine, eh ben, on peut archiver tout Internet sur des... Et ça fait beaucoup de données, on peut les archiver comme ça sur ces trucs-là. Et ils me disent, non, mais ça représente une partie congrue, c'est pas du tout des trucs utilisables. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je suis émerveillé par le concept, mais qu'il n'y a pas d'application vraiment réelle à grande échelle, ou c'est quand même quelque chose qui va être utile ?
Ah bah, s'il n'y avait pas d'application à grande échelle, il n'y aurait pas de livres, il n'y aurait pas de stockage, il n'y aurait pas de web machine, il n'y aurait pas tout ça. Enfin, non, ça a du sens, je pense, d'archiver des données. Après, avec la quantité de données qu'on a aujourd'hui, tout archiver, je ne sais pas. Ça serait la vraie question. Mais la promesse du support, si tu veux, moi, je reste encore dubitatif. C'est-à-dire que est-ce que ça sera vraiment le cas ? C'est-à-dire qu'on nous a toujours promis avec les nouvelles générations de support, ça y est, maintenant, vous allez garder ça des centaines d'années et tout machin, des DVD, tout. Enfin, c'était pareil.
Ah, personne n'a promis des centaines d'années. Les DVD, que ça se dégradait au bout de 5-10 ans.
Ah, mais au début, ça a été vendu comme ça. C'est support plus durable par rapport à ce qu'on avait avant, tu vois, par rapport aux disquettes, au support magnétique.
Oui, effectivement. C'est mieux qu'une disquette, ça, il n'y a aucun souci. Ouais.
Support magnétique, allez, qu'une bande magnétique.
Que les bandes magnétiques, quand elles sont bien conservées, tu peux les garder.
C'est revenu, ouais.
Mais c'est pas une disquette que tu vas balader dans ton sac, que tu vas trimballer et balancer à tes potes. Il faut très bien les conserver, ouais.
Non, mais on en est revenu aux bandes magnétiques, tu vois, justement parce qu'on a été échaudé par le CD et le DVD, qu'on s'est rendu compte que ça ne durait pas aussi longtemps que ça. Du coup, il y avait un retour aux bandes magnétiques après qui s'est fait, mais pareil pour tout ce qui était stockage plutôt archivage et à froid, du coup, on appelle stockage à froid, donc qui n'est pas accessible dynamiquement en live. Et j'ai l'impression que ce système-là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est du stockage, t'archives, c'est stocké, mais tu ne vas pas faire la lecture et l'écriture très fréquemment. C'est vraiment, tu écris un truc, tu flashes, tu ranges, et puis voilà. Après,
alors,
est-ce que.
Pour que les gens comprennent bien. Pardon, vas-y.
Vas-y, continue.
Pour que les gens comprennent bien, c'est vraiment des plaques de verre qui sont rangées dans des grandes librairies, en fait, stockées comme des livres. C'est pas qu'ils sont dans des lecteurs. C'est du stockage complètement à froid. Et là où c'est intéressant pour la conservation, c'est qu'il n'y a pas de mouvement pour ces plaques ensuite. C'est des petits robots qui se déplacent sur les étagères. Les robots se déplacent, vont extraire les plaques et les amener dans les lecteurs. Donc, il faut quelques secondes, quelques minutes pour que le robot arrive et la chope. Mais le stockage lui-même, il est donc gravé au laser dans du verre, il est immuable et en plus, il ne bouge pas dans ses étagères. Donc, il y a encore moins d'usure. Donc, c'est vraiment pensé pour la conservation sur le long terme. Mais moi, je peux imaginer dans un film de science-fiction où dans 50 000 ans, des aliens arrivent sur Terre qu'on a quitté depuis longtemps parce qu'on a colonisé les étoiles. Et puis, il y a le vault en pierre qui s'ouvre, tu sais, avec la poussière qui tombe. Et puis, les trucs s'allument, bang, bang, bang. Et t'as les rangées de petites plaques en verre qui sont encore stockées. Et ils observent ça, je trouve ça marrant.
Ouais, mais ouais. Qu'est-ce qu'on va écrire dessus, tu vois ? Ça va être quoi quel usage ? Est-ce qu'ils en ont parlé de ce qu'ils allaient écrire dessus ? Je sais pas.
Non, c'est comme tu dis, c'est le stockage à froid immuable, donc on peut pas changer ce qui est écrit sur le verre, et donc c'est un cas d'usage spécifique. Peut-être que, si ça se trouve, tout ce qu'on a à stocker là-dedans, tous les livres, tous les films, tous les machins, ça tient sur 4 plaques, et donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'en avoir des... Je pense pas, mais... Bref.
Il parle de la densité de stockage dessus ou pas ?
Oui, je l'ai plus là. Je m'en souviens plus, mais c'est beaucoup. C'est de l'ordre du tera ou du pétabit sur une plaque, tu vois. C'est beaucoup.
Une plaquette, c'est pas mal.
Enfin, peut-être tera, tu vois. Peut-être pas péta, mais... Ils disent plusieurs tera. Voilà, c'est plusieurs tera sur une seule...
Sur une seule disquette. Sur une seule plaque. Disquette de verre. Ouais. C'est ça. Ok. Ouais, c'est pas mal.
Évidemment que le truc peut fondre ou se casser. Enfin, le verre, il est un peu solide, mais tout peut fondre ou se casser, je veux dire. Quand on dit ça s'archive pendant longtemps, c'est pas que tu peux le jeter dans un volcan et que ça restera, tu vois. L'idée, c'est que si tu le laisses dans son coin, il va pas se dégrader, comme c'est le cas des autres supports dont on parle. Même un CD, un DVD, tu le gardes dans le noir et à l'abri de l'humidité, et ben au bout d'un moment, au bout de quelques années, plus longtemps dans ces conditions que dans les conditions classiques où on les garde dans nos armoires à nous, mais au bout de quelques années, il sera plus lisible. Donc c'est ça qu'on essaye de résoudre comme problème. Je crois qu'on va s'arrêter là pour l'émission. J'aurais pu parler des robots humanoïdes d'Amazon qui sont marrants. Évidemment, Amazon dit nous libérons les employés de ces tâches répétitives que évidemment nous n'allons pas renvoyer, c'est sûr. Mais
on ne détruit pas des emplois, pas du tout.
Nouveaux robots. Ils sont impressionnants. Il y a un robot qui s'appelle le Evobot. Là encore, il vient du Discord, qui est un robot hyper... Bah, peut-être que je le mettrai dans la newsletter, celui-là. Qui est hyper bizarre, en fait. C'est un truc qui se tient en équilibre. C'est deux, en quelque sorte, un axe avec deux jambes, avec des roulettes pour rouler. Et puis, deux bras en métal qui sont juste pas des bras articulés, qui sont juste deux morceaux de métal qui partent comme ça, que c'est comme les jambes en fait, et qui ont un truc pour attraper derrière, et qui en fait tient des choses jusqu'à 100 kilos, mais en s'équilibrant par rapport à un mouvement de contrebalancier. Et c'est hyper rapide, c'est hyper stable, c'est très impressionnant, je le mettrai dans la newsletter aussi. Il y a...
Ce qui me fait halluciner là-dedans, c'est que... Tu vois, ce qui me fait halluciner, c'est pas tant le fait de recréer des robots humanoïdes, mais de recréer, tu vois, de découvrir de nouvelles façons de faire des robots avec des mouvements adaptés pour des cas bien spécifiques, parce que ça sera plus efficace en fait derrière que faire ça avec un humanoïde. Et quelque part, tu vois, tu es en train un peu de challenger comment l'évolution de la nature s'est faite. Et tu dis, bah, peut-être qu'on a des formes physiques qui seront plus adaptées pour une tâche bien spécifique, contrairement à ce que la nature a pu créer, parce que il n'y a pas eu ce besoin-là qui s'est fait spécifiquement. Ah, exactement, tout à fait.
C'est hyper intéressant. Je le mettrai dans la newsletter, du coup, cet article. Et puis donc, il y a Twitter qui fait des siennes. En gros, juste deux minutes, il y a plusieurs choses qui se passent. Bon, Elon Musk est en train d'essayer de discréditer Wikipédia. Ah, mais pourquoi ils ont besoin d'autant d'argent? C'est quand même un mystère, hein. Chouah. Et surtout, ils sont en train de tester un truc qui est pas con, c'est de faire payer tous les utilisateurs Twitter. C'est-à-dire que, en théorie, un service pour lequel auquel tu peux pas avoir accès si tu ne payes pas, ils disent $1 par an. Donc, c'est vraiment une somme minime. Il y a des idées comme ça avec les mails, par exemple, pour éviter le spam, on ferait payer 0,00001 centime par mail envoyé. Et du coup, le spam, pour les gens normaux, ça change rien. Mais pour le spam, ça devient plus vraiment économiquement intéressant de spammer des millions d'utilisateurs. Le problème, c'est qu'évidemment, dans un écosystème comme le mail, eh ben, y a toujours des moyens d'envoyer des mails par ailleurs et de contourner le truc. Donc, ça sert à personne d'implémenter ce genre de système de paiement. Et je crains que pour Twitter, même si l'idée, c'est pas parce que Elon Musk la suggère qu'elle est pas bonne, mais l'idée... peut être intéressante, mais dans la pratique, je ne suis pas sûr que ça se concrétise de la manière qu'on l'imagine. Et qu'au final, bah oui, les gens qui utilisent Twitter pour dans des buts peu louables, ils seront quand même intéressés par l'idée de payer un dollar, même pour les bots, même pour les machins. Donc, bon. Il y a aussi deux niveaux d'abonnement qu'il veut mettre en place. Un qui donne accès aux fonctionnalités payantes mais qui garde la pub, et un plus cher qui donne accès aux fonctionnalités payantes sans pub. Ce qui, franchement, je trouve pas ça con. Si Twitter était géré autrement, je pourrais même dire que c'est une bonne idée. Enfin, ça, en isolation, c'est pas une mauvaise idée.
Et bon. Pour la question, tu payes pour Twitter ou pas?
Non, tu rigoles.
Ça t'a pas fait mal qu'ils
aient lancé les nazis, tu vois, je suis...
non, mais pour la communication.
Mais à peine.
Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, franchement, ça m'a fait mal de perdre TweetDeck, l'interface avec les fuites de pouvoir ranger un peu, regarder tes colonnes, tout ça. Et... Mais ça m'a pas duré très longtemps. Après, c'était à peine une grande perte, en fait. Tu vois. Et c'est là où tu vois. Mais c'est pareil, la valeur des choses. Tu te dis, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup? Bah non.
Exactement.
Bref,
et d'ailleurs, je vais conclure avec deux choses. Sur cette question de Twitter et de nazis, j'exagère. Clairement, j'ai pas envie de donner de l'argent à Elon Musk pour tout ce qu'il fait, et je pense que c'est quelqu'un qui est dangereux. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Il est vraiment parti sur un truc étrange. Mais je dis pas que jamais de la vie je paierai pour Twitter, parce que c'est un outil de travail dont j'ai peut-être besoin. Mais en même temps, la transition vers Blue Sky est surprenante. Vraiment, elle a continué ces dernières semaines. Sur le Discord, je vous disais, et je le dis en fin d'émission pour que ça soit juste des gens qui écoutent vraiment l'émission qui y aillent, sur le Discord, on a ce forum d'échange de code d'accès à Blue Sky qui commence à tourner vraiment, parce que les gens qui y sont arrivés il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, commencent à avoir des codes et donc en ont eux aussi à distribuer. Donc là, on est à une génération de nouveaux codes. Donc, il y a tous les jours quelques codes. Alors, il y a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres, mais ça commence à tourner vraiment et les gens sont super gentils, super sympas. Donc, si vous voulez un accès à Blue Sky, peut-être que le Discord est une option pour vous. Les notes sont dans les notes. L'accès est dans les notes, le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr. Et il y a une application qui s'appelle Gray Sky pour iOS et Android, qui est pas mal, qui est mieux que l'application de base. Donc, je vous la recommande. Moi, je l'utilise désormais, mais... Ce qui est intéressant, c'est que la transition continue à se faire. Alors, on verra ce que ça donne. Hein. C'est encore tout petit Blue Sky et c'est peut-être pour ça que ça a du succès, parce que je suis sûr que quand tous les connards auront débarqué, ça redeviendra insupportable, c'est possible. Mais à ce stade, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que je voulais dire... Là encore, avec la newsletter, il va y avoir beaucoup de tech dans la newsletter cette semaine, je crois. Généralement, c'est équilibré, mais là, il y avait plein de choses dans la newsletter. Je vais ajouter une autre chose que j'aimerais encourager tous les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas ce dont je vais parler à aller le regarder. Et la newsletter, j'en parlais la semaine dernière, c'est vraiment devenu un truc qui est intéressant en soi, qui est une collection de... les sujets principaux dont je parle, les liens intéressants, des bonus pour les patriotes qui sont les trucs que j'ai trouvé cool cette semaine qui sont vraiment sympas, mais même si vous n'êtes pas patriote, en fait, quand vous écoutez l'émission et que vous dites « Ah ouais, ça, il faudra que je pense à aller le voir, ça a l'air intéressant, machin », je vous libère le cerveau, je mets tout dans la newsletter et vous le recevez en fin de semaine quand vous avez du temps pour regarder le week-end ou le lundi suivant, machin. C'est vraiment devenu un produit. Alors la forme... Elle est cool, elle n'est pas parfaite, elle est perfectible, mais elle est vraiment cool. Et puis surtout, le fond, je pense que ça peut vous intéresser. Y compris, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter, il y a le lien dans les notes de l'émission. C'est un produit que j'aime bien. Mais y compris pour ceci, c'est l'annonce de l'arrivée en LEC de l'équipe de la Carmine Corp. Et là, je pense qu'il y a une moitié ou plus... des auditeurs qui se disent « Mais de quoi il nous parle, ce gars ? Il s'est mis à parler chinois tout à coup. » C'est normal. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le monde du gaming, ne connaissent pas vraiment le monde du streaming et ne s'intéressent pas à ces choses-là. J'aimerais vous encourager à peut-être pas vous y intéresser véritablement, parce que je sais que ce n'est pas des trucs qui vont vous intéresser si vous ne connaissez pas ces mots-là, mais au moins aller regarder cette vidéo, parce que il faut comprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Vous savez que l'un des leitmotivs de cette émission, du Rendez-vous Tech, c'est on ne peut pas comprendre le monde si on ne comprend pas la tech. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre notre société si on ne comprend pas ce qui fait vibrer la moitié de la jeunesse aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'arrivée en LEC de la Carmine? Il y a un jeu qui s'appelle League of Legends, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est sans doute le plus gros jeu d'e-sport, de sport électronique du monde. League of Legends, c'est un jeu qui se joue en équipe 5 contre 5, et il y a des championnats tous les ans immenses qui fédèrent des millions et des millions de spectateurs. La Carmine Corp, c'est une équipe, une écurie d'équipes d'e-sport qui a différentes équipes sur différents jeux, dont une équipe sur League of Legends. Et elle a été fondée notamment par un jeune homme qui s'appelle Kamel, alias Kameto, Kamel Kebir. Et son rêve était de participer avec son équipe, lui-même et puis avec son équipe, au championnat du monde de League of Legends. Sauf que pour participer au championnat du monde de League of Legends, il faut faire partie d'une ligue régionale, américaine, européenne, asiatique, dans lesquelles les places coûtent des millions, des dizaines de millions d'euros. Des dizaines de millions d'euros. Kamel Kebir, c'est un type qui stream sur Twitch depuis sa chambre. Il a commencé il y a une dizaine d'années, il streamait sur Twitch depuis sa chambre, c'est n'importe qui. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'après un parcours de plusieurs années pour son équipe, donc pour son écurie, pour sa société, la Carmine Corp, qu'il a montée donc il y a quelques années, il a réussi à, grâce à la ferveur des fans, grâce aux performances de ses équipes, il a réussi à faire un montage financier, à avoir des investisseurs pour racheter une place en LEC, qui est la Ligue européenne de League of Legends. C'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel, parce que, encore une fois, on parle de places en Ligue qui coûtent des dizaines de millions d'euros, auxquelles n'ont accès que des énormes structures. C'est pas un gamin dans sa chambre qui va pouvoir monter un truc comme ça, sauf pour Kameto. Il a mené son projet depuis des années, et enfin depuis quelques années, hein, ça fait même pas 10 ans qu'il a lancé la Carmine, mais il a mené son projet depuis quelques années. Grâce à sa popularité et à son sérieux et au soutien des fans, ça a continué le chemin. Et il fait donc, dans cette vidéo que je propose de vous mettre dans la newsletter, vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, mais il fait dans cette vidéo son annonce. Et la raison pour laquelle, il y a plein de vidéos sur le sujet, la raison pour laquelle je vous recommande celle-ci, c'est que c'est Kamel qui est sur Twitch, en costume, parce que là, il est sur les toits, sur les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe en fond, mais qui est lui, qui est hyper ému, qui cherche ses mots, qui en pleure presque, et qui annonce à son public cette arrivée en LEC avec ses mots et qui fait part de cet événement exceptionnel comme il est lui et comme sont les gens qui naviguent dans cet écosystème de Twitch où les gens normaux font les médias. Et c'est pas juste pour vous parler de jeux vidéo parce que j'aime bien les jeux vidéo, c'est pas juste pour vous parler de Kamel et de la Carmine parce que j'aime bien Kamel et la Carmine. C'est pour vous encourager à aller regarder cette vidéo, ce ton, cette manière de faire les choses, parce que c'est ça qui font les médias aujourd'hui. On parle de Netflix, on parle de machin, c'est important aussi. Mais ça, c'est ce qui fait une partie de l'univers média, d'une partie de la population française, une partie de la population du monde aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous encourager à jeter un coup d'œil à cette vidéo spécifiquement, mais peut-être d'une manière générale à d'autres aussi, mais à cette vidéo pour vous faire une idée de ce que c'est. Ça ne va pas vous plaire, ça ne va pas vous intéresser, ça ne va pas vous parler. Ce n'est pas grave. Allez la regarder, c'est une question de culture générale. Je la mettrai dans les liens sur la newsletter. Voilà pour cette émission. J'espère que tu connais, hein, Christophe. Je ne t'apprends rien en disant tout ça, évidemment.
Non, je sais pas. Ouais, bah après, j'ai des enfants aussi, donc deux garçons qui suivent un petit peu de ça. Ouais, donc ça aide aussi. Mais non, mais c'est très intéressant. Et c'est surtout le côté... c'est ça, c'est... Enfin, monsieur tout le monde, mais le côté où tu peux te projeter, tu vois, t'as un rôle modèle, et sur cette génération-là, ça y joue pour beaucoup, sur le fait de... C'est pas tant le critère de succès, mais c'est le fait de te dire, mais en fait, avec... tu peux arriver à faire des trucs... tu peux arriver à lever des barrières, soulever des montagnes, avec... Enfin, si t'as envie, par ta passion, par plein de trucs, c'est inspirant aussi pour les jeunes, et effectivement, c'est une partie des contenus médias que tu vas trouver aujourd'hui, et qui sont consommés, c'est-à-dire que t'es vraiment une génération qui se nourrit de ça, aujourd'hui, qui est vraiment différente de nous, et c'est aussi important, et pas... Enfin, tu peux pas faire le vieux React, tu vois, qui dit, c'est jeune maintenant, etc., mais de... t'intéresser à ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois, t'intéresser à ça, pas forcément te dire que t'es d'accord avec ou tu comprends tout, mais au moins te dire t'intéresser à qu'est-ce qui se passe dans cette génération et du coup te rapprocher aussi, peut-être ouvrir des discussions avec tes enfants ou tes petits-enfants pour t'intéresser aussi à ça. Non, mais c'est passionnant. Je suis d'accord avec toi.
Et effectivement, c'était pas le sujet de mon. Sur lequel je voulais me concentrer, mais évidemment que l'histoire de Kameto, de Kamel Kébir est hyper touchante et de son parcours et de son succès. Moi, je suis pas un fan de la première heure de la Carmine, je suis pas un grand fan d'e-sport, mais même moi, en voyant cette annonce et tout ça, je suis allé acheter un t-shirt de commémoratif de cette annonce parce que c'est un truc qui est difficile à ne pas. Enfin, je suis dans cet environnement quand même, hein. L'e-sport, ça me dit quelque chose, mais on a envie d'être avec eux et de participer à son succès. Donc, j'espère que ça vous intéressera, si vous allez la regarder. Et là encore, venez sur le Discord, par exemple, pour me dire ce que vous en aurez pensé, si c'était un truc qui vous était étranger, si vous avez regardé au moins quelques minutes de la vidéo. Grâce à mon plaidoyer plein d'émotions. Sur le Discord, dont le lien est dans le... Il y a tous les liens, surtout, hein, dans les notes de l'émission, c'est fou. Christophe, merci d'avoir été indulgent avec mes problèmes techniques avant l'enregistrement et merci d'avoir contribué avec ton expérience et ton savoir à cette émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi tout.
Avec grand plaisir, toujours, comme d'hab. On peut me retrouver un peu partout, sur Chris Kamikas. Alors, place sur Blue Sky. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur X. Il y a un code Blue Sky, je veux bien. Faut que j'aille tester. Donc, Chris Kamikas, voilà.
Super, Chris Kamikas partout. Pour ma part, bah, c'est Note Patrick. Hein. Vous me retrouvez sur Blue Sky, sur X, sur Mastodon, sur le Discord. C'est vraiment là que la communauté vit et on est plein de gens sympas qui discutons de manière sympa de plein de sujets intéressants. Il y a évidemment la newsletter dont j'ai pas arrêté de vous parler, mais vraiment je pense que c'est pas vraiment que je suis fier de cette newsletter. C'est surtout que je pense qu'elle est utile, quoi. Donc et on travaille beaucoup dessus, évidemment. Et puis, bah, le Patreon, patreon.com/rdvtech pour contribuer à l'émission. N'hésitez pas à aller vous abonner. C'est sympa, ça vous apporte des petits bonus et surtout, j'espère que vous appréciez suffisamment l'émission pour vous dire peut-être que ça vaut un petit euro par semaine. On parlait de la valeur des choses tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous coûte moins d'un euro par semaine?
Ah, mais clairement, notre Patrick vaut plus... Enfin, la valeur, elle est au-dessus
3 de 3 euros par semaine. C'est ça, plus que Netflix. Bon, si vous appréciez l'émission, patreon.com/rdvtech. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 2 jours pour le rendez-vous tech et dans 1 semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous, bye bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.